Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
8h, bonjour à vous qui venez de nous rejoindre et rebonjour à ceux qui sont avec nous depuis 7h ce matin, heure à laquelle nous avons débuté ce traditionnel MAG de l'IMO avec des chroniques, des interviews. Et si vous les avez manquées, vous pourrez évidemment les retrouver en podcast sur notre site radio.imo, sur notre application du même nom et sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. Ne changez pas vos habitudes, nous vous suivons. Il est l'heure maintenant de démarrer la deuxième partie de ce MAG de l'IMO, celle qui est consacrée au portrait de notre grand témoin. Avant de l'accueillir à nouveau, laissez-moi redire bonjour à Fabienne Lissac. Rebonjour Fabienne.
Bonjour Johanna, quel plaisir de présenter cette émission avec vous.
Et quel plaisir de recevoir notre invité du jour, Grégoire de la Ferté, qui est directeur général adjoint de CBRE. Grégoire, vous êtes toujours en forme ?
Toujours, bien sûr.
Alors on va tout dire à nos auditeurs. Le premier morceau qu'on a écouté devait être le vôtre. On a eu un petit souci de programmation, du coup non, mais c'est pas grave, ça nous a tous mis en forme et on réécoutera évidemment l'un de vos morceaux dans quelques instants. Le temps de démarrer cette interview, je le disais, vous êtes le directeur général adjoint de CBRE spécialisé en immobilier d'entreprise. Est-ce que vous pouvez brièvement nous représenter le groupe et notamment en France?
Oui, bien sûr. Alors CBRE est une entreprise, on va dire mondiale, dont le siège est effectivement basé à Dallas. CBRE, c'est 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Les chiffres 2021 vont être publiés dans quelques jours, donc je ne peux pas vous les donner. Même personnellement, je ne les ai pas. Donc on va attendre ça encore quelques jours. C'est environ 100 000 collaborateurs dans le monde. Et puis effectivement, il y a deux très grandes plateformes qui sont celles de l'Asie et puis des États-Unis. Et puis il y a la plateforme européenne, la plateforme Europe continentale, dans laquelle évidemment CBRE France s'inscrit. Avec une logique s'agissant de CBRE, c'est d'avoir l'offre de services, la palette de services la plus complète possible, qu'il s'agisse des métiers de la transaction, qui sont ceux qui sont historiques et pour lesquels on est sans doute les plus connus. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de services qui tournent autour du conseil, évidemment, et puis des services apportés aux entreprises et aux utilisateurs, qu'ils soient investisseurs ou utilisateurs tout simplement. Et donc c'est cette palette complète de services qui est déclinée partout dans le monde. Où que vous trouviez une entreprise et une implantation de CBRE, et ben vous trouverez en fait la même offre de services qui est déclinée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la capacité d'accompagner les grands et les très grands groupes internationaux qui viennent se coller sur le maillage international de CBRE et de pouvoir décliner au travers de ces contrats qui sont globaux la même offre de services à peu près partout dans le monde. Voilà, donc ça concerne effectivement aussi bien la transaction que le service, que le conseil.
Et le modèle, vous le disiez, le groupe siège à Dallas, ça fait rêver. Et est-ce que le modèle de fonctionnement, c'est le même sur la zone américaine? Vous avez parlé de l'Asie, la France est-elle un marché particulier ou il y a un fonctionnement vraiment à l'américaine? Comment ça se passe? Vous venez prendre vos ordres, si je peux dire de manière très familièrement, à Dallas?
Non, alors évidemment, il y a une déclinaison locale, nationale. L'Europe continentale ne fonctionne pas comme les États-Unis, ne fonctionne pas comme l'Asie. Et évidemment, il y a une déclinaison. Donc, il y a des services qui peuvent exister sur d'autres plateformes comme l'Asie ou les États-Unis et qui ne sont sans doute pas en France. Et de même, il y a des services en France qui n'existent certainement pas dans d'autres pays et dans d'autres plateformes. Donc, c'est bien la déclinaison en fait de cette offre de services globale. Mais en apportant aussi d'abord le positionnement de l'entreprise à l'échelle nationale et puis aussi le fait d'adapter ce service aux us et coutumes nationaux, que ça soit en Allemagne, que ça soit en Espagne, que ça soit en France, il y a évidemment des modes d'interaction, des modes de travail qui sont spécifiques à chaque pays.
Et je me suis laissé dire que le magazine Fortune a nommé en 2021 CBRE société immobilière la plus admirée et en plus, Johanna, admirée pour la troisième année consécutive. Qu'est-ce qui génère cette image extrêmement positive qui fait que les gens ont envie de vous rejoindre?
Bah, d'abord, j'ai envie de dire, si c'est la troisième année consécutive, c'est que c'est pas par hasard. Déjà, pour commencer.
Alors, dites-nous quelques éléments de Fabrice.
Ensuite, effectivement, pourquoi admirer? Parce que, je pense, alors, je connais pas en détail ce rapport-là et les critères qui ont été pris en compte, mais, ce qui ressort, c'est, en fait, l'extraordinaire résilience, de CBRE à l'échelle globale. Et puis, en France, on est exactement dans la même lignée. L'extraordinaire résilience, au travers de l'année 2020. Tout simplement. Et je pense que c'est un des critères qui a été effectivement retenu, c'est que CBRE a continué à délivrer, à servir ses clients, à innover, et je dirais de façon beaucoup plus importante d'ailleurs en 2020, à continuer à innover, à servir ses clients tout au long de cette année chamoteuse, compliquée pour tout le monde. Et en ressort effectivement ce socle de services qui a fait ses preuves et qui démontre toute sa pertinence. Donc c'est ça qui est certainement admiré. Et puis admiré aussi parce que on continue à décliner, je dirais, notre ADN au travers de trois grandes thématiques qui sont, alors je suis désolé, ce sont des anglicismes, mais qui sont
on parle tous le franglais.
People, planet et practices.
Pourquoi
PPP, exactement, les trois P. People, parce que la gestion des talents, c'est pas quelque chose qui est nouveau chez CBRE, c'est pas issu de cette pandémie. Et effectivement, on en parle beaucoup, on en parlait un petit peu moins en 2019-2020, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été mis en place déjà depuis longtemps. Chez CBRE en France, d'ailleurs, je salue les équipes RH pilotées par Michael Jacquemin et Céline Chevanche qui ont obtenu des prix depuis déjà de nombreuses années. Donc c'est dire que c'est pas nouveau, et spécifiquement c'est sur ce talent management. Donc ça, c'est toute la place de l'humain, la place des collaborateurs dans l'entreprise et la capacité que nous avons à les faire évoluer dans l'entreprise. Voilà. Nous sommes un métier de service et nous sommes un métier qui est composé d'hommes et de femmes qui sont là pour servir nos clients. Planète, parce que évidemment, c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, on va peut-être passer rapidement dessus, mais planète, évidemment, il y a un grand nombre de déclinaisons. Il y a ce qu'on fait nous chez CBRE pour répondre à nos objectifs environnementaux. Et puis, il y a la façon dont on accompagne nos clients aussi dans ces objectifs environnementaux qui sont multiples, qui sont très larges. Donc ça, c'est une thématique qui est forte. Et puis, practices, pourquoi practices? Parce qu'il faut être exemplaire. Et dans practices, il y a évidemment le fait d'être toujours en pointe, toujours à l'avance, d'aller chercher des nouvelles pratiques, de réduire, on parlait du sujet environnemental, de réduire nos consommations énergétiques. On a déjà commencé à le faire en 2020. On les a réduits de près de 30% sur l'ensemble de nos sites. Donc voilà, ce sont très clairement sur ces trois grandes thématiques, ces trois P que vous avez très bien résumé, merci, qu'effectivement, je pense que Fortune 500 a salué CBRE.
Et ces trois P dont vous parlez, qui étaient la base du premier rapport RSE qui a été publié cette année d'ailleurs, c'était en octobre 2020, fin d'année dernière, par CBRE. C'était la première fois que CBRE France dévoilait comme ça ses initiatives. Ça a marqué un peu un tournant. Est-ce que c'est finalement la preuve que ces engagements RSE ont aujourd'hui une place absolument primordiale dans le monde de l'immobilier, et a fortiori l'immobilier d'entreprise?
Il y a des enjeux. Alors oui, place primordiale, bien sûr, et je dirais c'est même un enjeu, mais c'est pas que l'enjeu de CBRE, c'est un enjeu commun d'aller dans ce sens-là. Il y a une accélération très forte sur la prise en compte de la mise aux normes ou en tout cas de l'intégration d'un programme de rénovation énergétique de nos bâtiments. Ça a commencé, on va dire, en 2018, 19, peut-être un peu timidement, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le cœur du sujet. Et on voit bien effectivement que la déclinaison de tout ce qui va se passer dans les prochaines années, mais j'ai envie de dire, quelque part, c'est maintenant que ça se passe. C'est dans les deux, dans les trois prochaines années que les choses doivent se faire, doivent se déclencher pour qu'on atteigne les objectifs environnementaux qui sont ceux du décret tertiaire. On parle de 2030. 2030, c'est demain. Si on parle de l'échéance d'un bail qui est de 9 ans, le décret tertiaire, il est déjà inscrit dans le bail, il est déjà là. Donc il faut agir vite. Et il y a une prise en compte, une prise en considération de tous ces enjeux, que ça soit par les entreprises utilisatrices de ces immeubles de bureaux ou que ça soit par les investisseurs, qui se fait de façon très très rapide. Donc pour nous, évidemment, l'objectif, c'est d'accompagner, c'est de conseiller, c'est même d'être en avance aussi sur ce thème-là. C'est pour ça que la publication de ce premier rapport RSE, c'était le fait de marquer cette première étape, cette première pierre. Ensuite, il y en aura beaucoup d'autres. C'est un métier qui doit se décliner, en tout cas chez CBRE, au travers d'une approche qui est globale. On ne peut pas considérer que une approche environnementale, une mise en adéquation avec le décret tertiaire, c'est l'affaire que du bailleur ou que de l'utilisateur, c'est un travail commun. Donc tout notre enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner ces entreprises, quelle que soit leur nature et leur origine, dans la mise en commun de ces objectifs environnementaux.
J'ai l'impression que vous surfez sur une vague extraordinaire. Le secteur immobilier atteint un niveau sans précédent dans l'histoire. Hein. Selon un rapport publié par le cabinet CBRE, le secteur immobilier a attiré des investissements record 2021, un volume de 359 milliards d'euros. Vous-même, vous êtes heureusement surpris. Vous pensez que la tendance peut continuer? On atteint des niveaux inégalés là.
Alors là, vous parlez effectivement d'investissement. Il y a un petit effet mécanique hein, qui est la compression des taux. Donc effectivement, ça booste aussi les volumes. Maintenant, ce que l'on voit, ce que l'on observe sur le thème de l'investissement, c'est qu'il y a, il y a des tendances. Il y a des modes. Il y a le fait que le bureau, la pandémie a agi sur le bureau bashing. Bon, heureusement, ça n'a pas duré très longtemps.
Ça vous a fait peur, là, quand tout le monde s'est dit « Oh, je ne vais plus au bureau ».
Les hyper-réactions, moi, je les trouve très rassurantes, en fait. Parce qu'une hyper-réaction, ça veut dire qu'on réagit immédiatement à un élément. Or, le bureau tel qu'il existe aujourd'hui est un lieu d'échange. Il est en train d'évoluer dans sa fonctionnalité. Il évolue très très vite d'ailleurs.
On va en parler. Ouais.
Il évolue dans sa fonctionnalité. Et évidemment que le bureau, on en a besoin. Les entreprises ont besoin de bureaux, ont besoin de ce lieu d'échange. Le 100% télétravail peut-être un jour. Pour certaines entreprises, c'est possible. Il ne faut pas être catégorique là-dessus. En revanche, ça ne peut pas être une généralité.
C'est donc amusant, on en parle un jour où le télétravail est presque imposé à tout le monde à cause de nos amis, des entreprises publiques qui font grève. Mais voilà, ça ne vous inquiète pas, c'est ces jours qui se répètent ou d'une manière ou d'une autre, à cause de la pandémie, des grèves RATP, SNCF, on est obligé de rester chez soi.
Alors, tant mieux, parce qu'on a appris à vivre avec ça. Donc le télétravail fait aujourd'hui partie de nos modes de fonctionnement et d'interaction, et ça fonctionne très bien, il faut le reconnaître. Après, ce sur quoi je revenais un instant, c'est de dire on a besoin de ces lieux d'échange. Simplement, ces lieux d'échange, le bureau en tant que tel, il faut que dans ses fonctionnalités, il évolue. On ne vient plus s'asseoir à son bureau, travailler, repartir, etc. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu dans lequel l'entreprise doit aussi pouvoir décliner son ADN, sa raison d'être, sa façon de fonctionner, sa différenciation. On parlait de la guerre des talents, sa différenciation par rapport à l'entreprise qui est à côté et qui est en compétition. Donc c'est ça aussi le lieu d'avoir un immeuble de bureau, d'avoir une surface de bureau, parce que les entreprises n'ont pas toutes des immeubles entiers, d'avoir des surfaces de bureau qui sont des surfaces d'attractivité et de rétention aussi des talents. C'est un des éléments. On l'a vu en 2020, mais surtout 2021, c'est le fait que les territoires géographiques qui fonctionnent le mieux en Ile-de-France, de façon assez peu original, c'est le centre de Paris. Voilà. Pourquoi? Parce que hypercentralité, parce que hyperaccessibilité, parce que il y a une vie à côté du bureau, il y a le bureau, et puis il y a la vie urbaine, il y a la vie de quartier, il y a la vie du café. J'étais prendre un café juste avant de venir vous rejoindre ce matin. Et je suis ravi d'avoir cette vie-là. Et c'est ça aussi que j'irai les entreprises, mais surtout les collaborateurs et les salariés viennent aussi chercher cet environnement-là. Et donc, c'est un élément de rétention. Donc, si c'est un élément de rétention, les entreprises le prennent en compte.
J'aimerais m'arrêter, si Johanna me le permet, sur un pronom, un déterminant possessif. Vous avez dit, chacun se rend à son bureau, son. Est-ce que, effectivement, j'aimerais qu'on parle du bureau de demain, du bureau, comment il évolue, le concept, puisque on connaissait pendant 50 ans, 100 ans, son bureau. On avait la photo de sa famille accrochée au mur. Et de plus en plus, on nous parle dans les sociétés, de bureaux de passage, de plateformes ouvertes. Ça fait partie, j'ai l'impression, des tendances de l'évolution, le bureau moderne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, son bureau? Est-ce qu'on n'a pas un bureau dans sa société?
Alors, là aussi, moi, je suis pas très à l'aise sur le fait de faire des grandes généralités, parce que s'agissant des entreprises, des utilisateurs, on peut pas imaginer que le mode de fonctionnement soit le même pour une start-up que pour une caisse de retraite ou pour une mutuelle que pour une banque. J'ai envie de dire, ça dépend d'où on vient et ça dépend où on a envie d'aller. Et souvent, ce qu'on constate au travers des différentes missions qu'on peut avoir, c'est que l'entreprise, elle a envie d'aller plus loin que probablement là où elle peut aller. Juste pour étayer mon propos, on vient de réaliser une mission pour le compte d'une caisse de retraite, dont je vais taire le nom, mais qui avait un fonctionnement très cloisonné. Chacun, comme vous venez de l'exprimer, chacun son bureau, la photo de la famille, etc. Un peu la caricature. Et en même temps, ils ont eu pour idée de changer d'environnement, changer d'immeuble de bureau pour passer en total flex. L'enjeu de notre conseil a été de dire, vous n'allez peut-être pas pouvoir y arriver en une seule fois. Il faudra
l'évolution
peut-être y aller.
Est trop importante.
En deux. Le changement est trop fort. L'adhésion du collaborateur, des collaborateurs ne sera pas là. Donc il faut passer par des étapes intermédiaires qui fait qu'on va évoluer dans son mode de fonctionnement et qu'on va décliner un certain nombre de fonctionnalités au sein d'un même immeuble qui va permettre que la place du bureau individuel, on va peut-être la minimiser un peu parce qu'en fait, on va utiliser d'autres surfaces de réunion, de brainstorm, d'échange, etc., de convivialité, qui viennent en complément. Le bureau individuel, on y est stationnaire. L'objectif, c'est que en réalité, le bureau individuel, on n'y passe plus que 30% du temps, c'est quoi l'intérêt d'avoir son bureau attitré, en dehors de ce côté très possessif.
Petite curiosité, vous le voyez tout de suite, ces sociétés, où dans les mœurs, il y a un attachement à son bureau personnel, ou vous faites des sondages lorsque vous êtes en échange comme ça avec un client pour savoir dans quelle mesure il va pouvoir passer, se transformer vers une société à bureau flex. Ça se voit tout de suite, c'est évident, ou ça demande un retour des collaborateurs à travers des sondages? Comment ça se passe, votre diagnostic?
Oui, bien sûr. Non, mais c'est un travail, on va dire. D'abord, c'est un travail itératif, c'est un travail collaboratif. C'est effectivement un travail aussi au travers de workshops, collaboratifs, de faire participer d'abord les équipes dirigeantes, mais aussi les collaborateurs. Il faut arriver à un projet commun. Ce sont de lourds investissements qui sont mis dans les immeubles de bureaux quand on décline des aménagements. Donc il s'agit que ça soit une réussite à la sortie et que quelque part ça soit une évolution qui soit naturelle parce que elle a été comprise, elle a été intégrée. Donc bien sûr que il y a un travail d'échange, il y a un travail d'audit, il y a un travail de compréhension et ensuite il y a un travail de programmation, un travail de design et puis il y a un travail de mise en œuvre. Donc tout ça est une chaîne qui est très bien identifiée, très bien construite et qui peut prendre plus ou moins de temps. Il y a des entreprises avec lesquelles on travaille depuis maintenant plus de 2 ans à déterminer ça et d'autres avec lesquelles on a mis 6 mois pour tout faire. Donc c'est là aussi, c'est pour ça que j'ai du mal à parler de généralité s'agissant de ces nouveaux modes d'aménagement et nouveaux modes de fonctionnement. Il faut effectivement adapté à chaque entreprise, chaque entité, parce qu'elle a son histoire, elle a son ADN aussi. Et puis, il y en a pour lesquels ça fait 30 ans qu'ils sont dans le même immeuble, et puis d'autres pour qui ça fait juste 6 ans. Donc, évidemment, la notion d'évolution n'est pas la même.
Alors, c'est vrai que on a interrogé des personnes qui vous connaissent bien, qui vous pratiquent, que ce soit sur le terrain professionnel ou autre. Et donc, je vous propose d'écouter Nicolas Verdillon, Managing Director Investment Properties chez CBRE, puisque vous faites un bout de chemin ensemble dans ce grand groupe. Comme ça, on a un éclairage petit à petit. Cette émission, elle permet de connaître l'entreprise, mais également notre grand invité aujourd'hui, Grégoire de La Ferté. On écoute les témoignages. Nicolas Verdillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des investissements en France chez CBRE. Pour se rendre compte, hein, Managing Director, c'est de l'ordre de 7 à 8 milliards investis chaque année. Et vous avez la chance de travailler avec Grégoire de La Ferté. Comment vous le percevez ?
Écoutez, bah, c'est un garçon avec qui il est agréable de travailler parce que c'est un garçon qui est, comment dire, qui est très rigoureux. Un garçon qui est assez structuré, donc il a pour habitude de bien planifier, bien s'organiser. Donc, quand on travaille avec une personne comme ça, c'est toujours extrêmement, extrêmement confortable. Je ferai un petit parallèle. C'est un garçon, il passe beaucoup de temps de ses vacances ou de ses moments de loisirs en Bretagne sur le golfe du Morbihan. Et je sais qu'il y fait beaucoup de voile, donc il a pour habitude de regarder loin à l'horizon. Ce qui lui permet de bien anticiper, ce qui est une qualité, je trouve, quand on travaille dans une équipe. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il il a toujours tendance à un fin stratège. Pourquoi je dis un fin stratège ? Parce qu'il laisse toujours les autres s'exprimer dans une réunion, il est arrivé chez les autres qui parlent, donc il a cette qualité d'écoute. Et puis, fin stratège, quand vous avez écouté les gens, généralement, vous pouvez mieux positionner ou bien positionner votre patte pour avancer.
Merci pour cet éclairage. Merci d'avoir participé. Au revoir. Voilà, c'est vrai que vous êtes nombreux chez CBRE. Imaginons votre quotidien. C'est une multitude de réunions à votre niveau avec énormément de managers où, effectivement, Nicolas Verdillon, vous êtes amené à travailler tous les jours avec lui.
Alors, Nicolas est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui on échange énormément. On a deux activités, deux métiers, on va dire, qui sont très complémentaires. Moi, sur ma partie et mon quotidien, effectivement, je j'interagis plus sur les sujets locatifs d'une façon générale, même si aujourd'hui, effectivement, je m'intéresse à tout ce qui se passe autour. Et puis Nicolas, il s'occupe de vendre les immeubles. Donc c'est une chaîne. C'est un cercle vertueux. On a aujourd'hui tout intérêt à avoir cette collaboration et cet échange. Et puis en plus, on n'a pas besoin de se forcer beaucoup puisque on partage à peu près les mêmes visions. Donc ça permet de gagner du temps également. Donc effectivement, il y a un travail collaboratif qui est fait avec Nicolas et puis les équipes de Nicolas qui est d'une grande qualité. On s'apprécie, on se respecte mutuellement. Je parle de Nicolas et puis des équipes d'une façon globale. Donc c'est un vrai plaisir et puis c'est tellement naturel, tellement évident dans notre façon de servir nos clients qu'aujourd'hui je pense que ça se voit aussi et c'est ça qui est apprécié, c'est que cette synergie, ce fait qu'on arrive à travailler en bonne intelligence tous ensemble et puis à trouver des idées, à créer du business ensemble que d'autres ne pourraient peut-être pas créer parce qu'il n'y a pas cette proximité, évidemment on en est ravis de tous les jours.
Alors, si on parle de l'évolution du bureau, parlons du Covid, parce qu'il y avait certainement des tendances lourdes, et puis il y a cette période totalement hors norme, qui est hélas pas totalement finie, avec cette pandémie qui nous inquiète un jour, qui nous rassure le lendemain, et à nouveau qui nous fait craindre les lendemains de cette pandémie. Quelles sont les tendances de la demande du marché après le Covid, voilà, où j'ai du mal à dire après le Covid puisqu'on est encore un petit peu dedans.
Alors les tendances, elles sont multiples. D'abord, elles sont mouvantes. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette pandémie, effectivement, on a toujours envie de dire que c'est derrière nous. On va espérer que ce coup-ci, c'est presque derrière nous. Il y a des évolutions qui se font au fur et à mesure des mois. Les tendances, c'est quand même cette hypercentralité. Ce fait de pouvoir de capter les talents, puisqu'effectivement il y a le principe de la guerre des talents, donc de capter les talents et de pouvoir répondre à ce besoin de recrutement, parce que en même temps, ce qu'on voit bien, c'est que globalement l'économie, elle est là, elle repart et les activités sont fortes dans toutes les entreprises. Et aujourd'hui, toutes les entreprises, elles ont besoin d'un maximum de ressources pour arriver à délivrer déjà ce sur quoi elles se sont engagées, et puis rejoindre leur plan de croissance. Donc pour ça, il y a plusieurs critères qui sont aujourd'hui repris par toutes les entreprises ou une majorité. C'est effectivement ce fait d'avoir une centralité qui est avec une accessibilité forte. On a besoin de proximité avec les transports en commun. Il y a ce fait d'avoir des mètres carrés un petit peu différents. On avait dit, et c'est en ça que ça change assez rapidement, on a dit il y a un an, moins de mètres carrés, mais des mètres carrés de meilleure qualité. Cette tendance, elle est en train d'évoluer, au sens où on voit au travers des transactions qui ont été faites l'année dernière, là je vais juste prendre un échantillon qui sont les grandes transactions, on s'aperçoit que effectivement, globalement, il y a une réduction d'à peu près 30% de la taille moyenne de transactions. Mais ça, c'est une généralité. Quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a 40% de ces transactions et de ces entreprises qui ont réduit leur surface. Il y en a 30% qui sont restés à isopérimètre. Et puis, il y en a 30% qui sont en croissance. Donc, ça veut dire quand même que l'immense majorité est à isopérimètre ou en croissance. Donc, cette tendance de moins de mètres carrés, mais des mètres carrés de meilleure qualité, elle va demeurer. On va garder la qualité. Mais si on veut rejoindre les plans de croissance, si on considère, je reprends mon bail de 9 ans, se dire qu'on prend des mètres carrés au chausse-pied, sa durée de vie qui est assez limitée. Donc, ça veut dire qu'à très court terme, il y aura des besoins d'extension si on veut rejoindre et répondre à la croissance des entreprises. Donc là, on a des éléments. Et puis effectivement, le troisième critère, et ça, les directions des ressources humaines y sont très vigilantes, c'est d'être dans un écosystème, c'est d'être dans un environnement tertiaire, mais urbain, qui fait que la vie au bureau, elle est agréable, mais la vie en dehors du bureau, elle l'est aussi. Il y a ce besoin d'avoir le café d'à côté où on va prendre un pot entre collègues. On a besoin de la salle de sport, on a besoin de pouvoir aller faire des courses. Et il y a une attention particulière de la part des directions des ressources humaines sur effectivement l'écosystème qui existe autour du bureau. Voilà.
On a beaucoup parlé du bureau. Beaucoup, beaucoup. Mais il n'y a pas que ça chez CBRE. Il y a aussi du commerce, de la logistique. Et ce sont également des secteurs qui ont connu un changement considérable pendant le Covid et pour l'après-Covid. Je pense notamment au secteur logistique qui doit faire face à des demandes de livraison qui sont absolument phénoménales, au phénomène aussi des magasins fantômes et des dark kitchens. Tout ça, ça redessine finalement le paysage de l'immobilier d'entreprise. Est-ce que ça change votre métier ?
Alors, ça change pas fondamentalement notre métier en tant que tel. En revanche, là où vous avez raison, c'est que sur les métiers de la logistique, et puis je vais aussi parler de l'activité, sur ces métiers-là, là où le bureau plongeait en 2020, l'activité décollait. Effectivement, les niveaux d'activité enregistrés chez CBRE en 2020 et 2021 sur ces classes d'actifs en activité logistique sont en croissance et en croissance très forte. Il y a effectivement un besoin qui est très fort. Il y a cette logique de la logistique du dernier kilomètre, de comment est-ce qu'on arrive à délivrer tous nos petits paquets qui arrivent chez nous. Et là, effectivement, il y a une évolution. Vous avez parlé des pieds d'immeubles qui sont transformés en dark store ou en dark kitchen. Ça, c'est aussi une évolution très rapide qui est liée à des évolutions de consommation.
On les range où d'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais c'est dark store, c'est dark kitchen, c'est du commercial ou c'est
de la logistique ? Ça, c'est une excellente question. C'est une question. Non, en réalité, c'est un peu à cheval surtout. On a une approche, nous, qu'on est en train de mettre en place globalement et qui consiste à identifier en fait tous ces pieds d'immeubles, mais qui peuvent servir à différents types d'activités. Là où la mairie de Paris aujourd'hui est un petit peu moins fan de ces activités-là, parce qu'effectivement, ça crée quand même quelques quelques troubles autour de ces sites-là. Mais il y a un besoin. Et il y a un besoin de réutiliser ces surfaces qui avaient été initialement prévues pour être du commerce. On a tous, à côté de chez nous, des surfaces en pied d'immeuble qui ne sont pas forcément occupées depuis quelques temps. Et il y a quelque chose qui est en train de se réinventer, mais qui est à cheval entre différentes classes d'actifs, que ça puisse être du local d'activité, que ça puisse être du commerce ou que ça soit du bureau initialement. Et là, on voit bien qu'il y a un besoin en fait, d'occuper, au-delà de la destination de la surface, c'est surtout cet emplacement-là qui est en pied d'immeuble parce qu'il est en proximité et il est en proximité de livraison. Ensuite, sur la partie retail, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, c'était une classe d'actifs très durement touchée pendant l'année 2020. On voit bien le retail qui est aujourd'hui en train de redécoller, de redémarrer les activités de retail de chez CBRE, des équipes de chez Marina Lafroff, notamment. Elles sont bien chargées, tant mieux, c'est une bonne chose. Ça vient compenser un petit peu cette année 20 et 21 en redémarrage. Mais effectivement, là aussi, il y a un besoin. Et puis moi, je crois beaucoup à cette évolution qui va combiner... En fait, ce mixte entre le magasin physique et puis tout ce qu'on fait par correspondance, en livraison, en logistique du dernier kilomètre, on voit bien que c'est en train de se dessiner parce que notre consommation personnelle... Pour nous, c'est un mélange des deux. C'est vrai que quoi de plus frustrant de commander son truc par Internet, et puis évidemment, c'est jamais le bon, c'est la bonne taille, etc. Et on se casse les pieds à le renvoyer. Bon, on voit bien qu'on a besoin de ce mixte, et que ce mixte, il a besoin aussi de locaux, il a besoin de surface en présentiel. Donc le modèle, il est en train d'évoluer. Je ne veux pas dire qu'il est en train de se réinventer, ça serait faux, mais il est en train d'évoluer. Et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que la vie, toutes ces surfaces qui sont en pied d'immeuble, elles ont besoin de vivre, elles ont besoin d'évoluer. Et donc, c'est aussi ça qui rend les choses intéressantes aujourd'hui.
On essaye de découvrir nos invités dans cette émission et on passe un petit peu par cette parenthèse et cet espace, cette rubrique du portrait. Grégoire de la Ferté, vous avez un magnifique nom. Ça me fait penser à la Ferté Saint-Aubin. Elle vient d'où, il vient d'où ce nom ? C'est très ancré dans le territoire français, j'imagine.
Alors effectivement, alors la Ferté, d'abord vous en voyez beaucoup, notamment sur les autoroutes, il y en a plein, hein, des La Ferté quelque chose, des airs de La Ferté. C'est lié à la forêt en fait à l'origine. Et puis effectivement, vous avez cité la Ferté Saint-Aubin. C'est une des origines de ce nom, voilà, la Sologne.
La Sologne. Mais pour autant, vous me disiez en préparant cette émission que vous mettez plutôt le cap vers l'ouest. Hein, quels sont les terrains de prédilection où vous passez ? On est à quelques heures du week-end. Où est-ce que vous passez le plus clair de votre temps ?
Le plus clair de mon temps, Nicolas l'a dit tout à l'heure parce qu'il me connaît bien, je le passe en Bretagne. Je suis breton de cœur et effectivement pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que c'est une magnifique région de France. Il y en a plein d'autres. Hein. C'est totalement irrationnel ce que je dis, mais
partie de la Bretagne
Alors, moi, je suis plutôt ancré sur la Bretagne sud, dans le golfe du Morbihan, qui est un terrain de jeu extraordinaire, qui est d'une beauté incroyable et qui est en permanence changeante. Et ce que j'aime particulièrement dans ce territoire et dans cette région de la Bretagne sud et du golfe du Morbihan, c'est qu'il y a une vie intérieure et puis il y a une vie extérieure. Il y a une vie à l'intérieur du golfe. Pour qui connaît, on sait qu'il y a plein d'îles, il y a plein de choses à faire à l'intérieur, de balades, de navigation. Et puis, il y a tout ce qui se passe en face. Et là aussi, c'est pas souvent d'avoir des îles comme des petites perles, type Édic, type Ouade, type Belle-Île, plus connues que les deux premières, qui sont aussi des terrains de jeu et de navigation. Donc, c'est un lieu, c'est un endroit où je vais... le plus souvent possible pour me ressourcer et puis juste prendre du plaisir à être là-bas.
Je croyais que vous alliez me dire oui, ce que j'aime en Bretagne, c'est le vent. Parce que là, si on parle de sport, le vent, c'est un élément indispensable de votre équation, non ?
Bah le vent, c'est ce qui fait avancer les bateaux dès lors qu'ils ont une voile. Donc effectivement, ce qui est intéressant sur ce sport qui est la voile, c'est que c'est fait de plein de petites choses, de plein de petits réglages, et que on peut faire avancer un bateau mollement si on a envie de le faire avancer mollement. En revanche, si on a envie de le faire avancer avec grande dynamique, mais il faut faire quelques petits réglages qui sont parfois compliqués
c'est
à faire.
C'est comme CBRE, ma parole.
Mais il y a une analogie qui est pas très éloignée, effectivement. C'est que c'est fait de beaucoup de petits réglages qui permettent à la machine d'aller plus vite, tout simplement. Voilà, maintenant c'est à la guise du skipper. Donc, il y a aussi le plaisir à la voile de pouvoir tout simplement se promener, ou alors de pouvoir faire la compétition, faire la régate.
Grégoire, on va poursuivre dans votre portrait. On va apprendre à encore un peu mieux vous connaître avec un nouveau témoignage. C'est celui de Valérie Britet. Elle est directrice générale adjointe en charge du pôle bureau chez Gecina. Gecina, autre grand groupe de l'immobilier de bureau. On l'écoute et vous nous en parlez juste après.
Valérie Britet, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Alors, vous connaissez Grégoire de la Ferté depuis plusieurs années. Cette relation professionnelle, c'est à l'occasion d'échanges sur le marché immobilier ?
Alors, c'est à l'occasion d'échanges. En fait, moi, je connais Grégoire, effectivement, depuis plusieurs années, quand il était notamment chez BNP Real Estate. Et j'ai suivi, d'ailleurs, son parcours et sa jolie carrière. Et on se croisait régulièrement autour de sujets que j'ai pu lui confier comme des mandats sur des opérations et à l'occasion de celle-ci, des deals que nous faisions ensemble. Donc, au fil des années, chacun est monté dans le management d'équipe. Donc, on se voit moins dans des négociations précisément. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager avec Grégoire des réunions régulières à peu près tous les deux mois où on fait un point global sur le marché, sur les équipes, comment fonctionnent nos équipes ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que je côtoie Grégoire.
Comment vous le percevez précisément ?
Alors Grégoire, s'il caractérise en tant que broker par rapport à nous investisseurs, je le qualifierais de véritable business partner. Il est en tant que business partner, si vous me posez la question, c'est vraiment il est là pour nous faire la bonne analyse du produit avec son équipe. Pas pour nous faire des compliments, pour essayer d'aller dans le sens du vent et essayer de dire comme ça je vais avoir un mandat. Non, c'est une analyse réelle en général, que ça soit du marché ou du produit que nous on souhaite présenter au marché. Et ensuite, il y a une volonté et un reporting très fréquent chez Grégoire, à peine notre directeur commercial de chez Gecina qui s'appelle Arnaud Violette. Toutes les semaines, ils s'appellent. Toutes les semaines, ils font un point sur les demandes, les prospects qu'on peut avoir ensemble, les deals ensemble. Et ça, c'est très précieux d'avoir quelqu'un qui tient au courant de ce qui se passe par rapport aux immeubles et qui est très disponible.
Merci Valérie Britet. Vous êtes directrice générale adjointe en charge du pôle bureau chez Gecina. Merci pour ce témoignage. Ça fait plaisir de voir que vos talents sont appréciés, hein ?
C'est toujours agréable à entendre. Oui, on ne va pas dire le contraire, bien sûr.
Et apparemment, tout le monde n'est pas business partner. Quand on écoute Valérie Britet, on comprend que tout le monde ne l'informe pas autant que ça sur l'avancée des projets très planifiés. Hein. Est-ce que c'est le mode de management à l'américaine ? On sent un mode de gestion, de planification, de choses structurées. Peut-être que le métier veut ça, tout simplement.
Non, c'est très clairement lié au métier. Hein. Je pense que ce qui est intéressant et ce qui est important pour les clients qui nous confient des missions, c'est surtout qu'on les tienne informés de ce que l'on fait et de ce qui se passe. Il n'y a pas pire que pas d'information en réalité, parce que pas d'information.
Nous aussi aux médias, on pense ça.
suppose qu'en fait il ne se passe rien. Or c'est généralement faux. En fait, il se passe plein de choses, donc c'est une question aussi de communication. Et puis je crois beaucoup au fait que le fait d'échanger, même si on n'a pas grand-chose à dire, Il y a toujours une idée qui sort parce qu'on est dans une construction, on est dans un échange. Effectivement, Valérie a cité la notion de partenariat quelque part. Moi, je me place vraiment dans cette logique-là. On est là pour construire ensemble, on est là pour faire des opérations ensemble. Évidemment, on est là, nous, pour apporter des bonnes solutions et aussi apporter des bons conseils. Je vais revenir dans un instant. C'est dans cette logique-là qu'on construit. Et cette logique-là, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de reporting, qui est pour moi pas forcément le bon mot, mais s'il n'y a pas, ce point d'échange régulier, on a du mal à le construire parce que il y a une question d'attente d'un côté et puis quelque chose qui n'arrive pas sans doute de l'autre. Donc voilà. Ensuite, sur la façon d'interagir, alors avec Valérie en particulier, Valérie a cette qualité, c'est qu'on peut lui dire les choses et elle est prête toujours à entendre. Pas forcément, elle partage pas forcément les choses, mais en tout cas, c'est d'être dans une critique constructive, qu'elle soit positive ou négative, mais d'être dans une critique pour chercher des angles de vue, chercher des angles d'attaque qui sont un petit peu différents, qui sont peut-être pas ceux qu'on a identifiés à l'origine. Et évidemment que quand on a une mission de type mandat de commercialisation, c'est pas juste un long fleuve tranquille, c'est pas juste un process qu'on déroule. Il y a une implication personnelle du collaborateur, de la collaboratrice qui porte la mission, et que c'est aussi cette implication personnelle qui va faire la réussite ou la qualité de l'échange. Et c'est aussi ça qui ressort. On est dans un monde de l'immobilier qui est en fait un petit univers dans lequel les gens se connaissent et se reconnaissent et puis
suivent.
C'est pas juste une relation d'une fois, se suivent. Donc pour moi, c'est important aussi que dans la façon dont on interagit avec nos clients chez CBRE, on ait cette qualité de récurrence de la relation et que ce qu'on vient chercher chez nous, c'est notre délivrance, mais c'est aussi tout ce qui va autour, la qualité de conseil, cette capacité à dire les choses, cette capacité à dire là, il faut changer la façon d'environner cette commercialisation ou ce mandat parce que l'environnement évolue aussi.
Pourriez-vous nous parler de quelques opérations? Parce que c'est très intéressant, mais on parle de manière générale de l'immobilier. Or, il y a des projets de construction, des noms d'opérations qui font que les gens vont se rendre compte que ça fait partie de leur quotidien. Il y en a de multiples. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une belle opération immobilière dont vous êtes fier?
Alors une non, parce que il y en a trop.
Deux, allez, soyons généreux.
On va essayer d'aller en trouver plusieurs. Moi, il y a deux territoires, je dirais, qui me fascinent aujourd'hui, qui sont les territoires de la Défense, d'une part, et puis les territoires de Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis. La raison pour laquelle la Défense est un territoire qui me fascine, c'est que c'est un territoire qui fonctionne pas comme les autres. Vous noterez que j'ai mis de côté Paris QCA parce que ça reste le cœur de Paris, sa vie, c'est composé de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes surfaces, c'est lié à la nature des bâtiments et le centre de Paris restera toujours le centre de Paris et c'est très bien comme ça. La Défense est un territoire qui se renouvelle en permanence, dans lequel on construit des nouveaux immeubles, on construit des nouvelles tours. On parlait de Dallas tout à l'heure, une tour à Dallas, j'ai envie de dire c'est banal, une tour à la Défense, ça n'est pas banal. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à renouveler le paysage urbain, notamment de celui de la Défense, et comment est-ce qu'on vient en permanence repositionner en attractivité ce territoire de la Défense. Il y a plusieurs opérations à la Défense aujourd'hui qui voient le jour, avec chacune leur positionnement. On peut parler de Trinity, très belle opération, hyper centrale, une architecture intérieure, un plan d'étage qui est remarquable et qui permet de capter les utilisateurs parce qu'ils s'y retrouvent quelque part. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. On peut parler d'éclat. Éclat, opération dont l'architecte est Jean Nouvel. Là, on a un objet architectural, là aussi avec une conception qui maintenant a quelques mois, mais c'est une conception d'immeuble et c'est surtout la capacité de construire de nouveaux objets de cette taille-là. Près de 80 mm carrés à la Défense, ça n'est pas rien. Et avec une architecture, un concept, un design. Là aussi, il y a un positionnement. On peut parler de la tour Alto, là aussi, tour neuve à la Défense, qui est plus sur le bas de la Défense. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois opérations, en fait, elles intéressent des utilisateurs, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors évidemment, ils vont faire leur marché. Voilà. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'une tour Alto, avec ses écailles, donc très, très, très sympathique en termes d'architecture, et dans une forme évasée qui est liée à son foncier, son emprise foncière, fait qu'on sait répondre exactement aux besoins de l'utilisateur. Puisqu'il n'y a pas deux tailles de plateaux qui sont les mêmes, en fait, on vient caler exactement par rapport aux besoins de l'utilisateur. Et par ailleurs, cette proximité de Neuilly et cette capacité à venir avec des mobilités douces, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, trottinette électrique, vélo électrique ou pas électrique, hein, parce que maintenant on ne parle plus de vélo électrique, mais je vous rappelle qu'il y a des vélos sans électricité, ça existe encore.
Il y a encore des gens qui
pédalent. Ça existe encore. Et donc cette capacité à venir en fait depuis Paris de façon très aisée aussi intéresse un certain nombre d'utilisateurs en disant là je suis aux portes de Paris, alors que la logique de la Défense près du hub de transport. Là, on est sur une logique de transport, une logique transport en commun. Donc ça, c'est pour moi. Alors, il y en a d'autres. Hein, je vais avoir des coups de fil cet après-midi en disant tu n'as pas parlé de notre opération, mais il y a d'autres opérations. Landscape, qui est une opération de restructuration, est un parfait exemple du renouveau aussi de ce territoire. Ensuite, si on a encore deux secondes, Clichy-Saint-Ouen, territoire très intéressant. Et là, pourquoi je fais l'analogie, c'est que on développe sur Clichy et sur Saint-Ouen des très grandes opérations qui font 60 000 mètres carrés. On peut parler des Stories, on peut parler de Rhapsody Harmony, qui sont deux très grosses opérations qui font 60 000 mètres carrés. C'est totalement novateur d'aller développer des très grands volumes sur ce territoire-là. Et effectivement, il faut un petit temps d'absorption qui est plus important que celui qu'on peut imaginer à la Défense. Quand bien même on voit que absorber 60 000 mètres carrés à la Défense, ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà.
Merci. Et je précise pour vos collaborateurs que, bien sûr, on n'a pas 5 heures d'émission ce matin. C'est pourquoi il y a nécessairement une sélection de projets. Et c'est moi qui vous ai imposé cet aperçu. On entend cet aspect précis chez vous quand vous parlez des choses détaillées. Et tous vos contacts, vos amis, effectivement, m'ont restitué ce portrait de vous. Vous savez de quoi vous parlez, vous maîtrisez. Donc, on va écouter un autre témoignage de l'un de vos amis. Vous pouvez nous le présenter Joanna.
Oui, c'est le dernier, ce sera le dernier témoignage de ce matin, mais on termine peut-être avec celui qui est le plus proche. Il s'appelle Guillaume Delattre. Il est directeur délégué en charge de l'aménagement des investissements et des arbitrages chez BNP Paribas Reim. On l'écoute, on revient.
Guillaume Delattre, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous connaissez Grégoire de la Ferté depuis un moment. Vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés, sur quel type d'opération vous coopérez ?
On s'est rencontrés il y a plus de 20 ans, quand on était à l'époque collègues sur Auguste Toire. Et donc, plus récemment, nous travaillons ensemble, moi comme investisseur et lui comme conseil chez CBRE.
Très bien. Et alors, vous travaillez avec beaucoup de managers. Qu'est-ce qui le caractérise, Grégoire de la Ferté ?
Je pense que c'est quelqu'un de très fiable, très sérieux, très fidèle. C'est quelqu'un de factuel. Il a aussi une approche conseil qui est intéressante. Il a une bonne vision des tendances, des marchés. Donc, c'est une personnalité très complète et incontournable. Bon.
C'est vrai que dans vos métiers, il faut être stratège, il y a des paris financiers. Vous avez senti cette intuition ou c'est l'aspect rationnel ? C'est dans vos métiers, il faut conjuguer tout ça. C'est le cas pour avoir de la Ferté ?
Je pense que c'est surtout quelqu'un qui a le sens du client, le sens du service et qui comprend bien les tendances du marché. Donc, il a une très bonne connaissance de son marché. Et donc, il anticipe assez bien ce que peuvent attendre notamment les utilisateurs sur le marché des bureaux, qui est son domaine d'expertise principal.
Je ne sais pas si vous avez un exemple en tête d'une opération ou d'un sujet où vous partagiez son analyse, où effectivement ça a pu réussir. C'est pas facile au dépourvu, mais est-ce qu'il y a, vous avez fait partie d'un grand groupe. Est-ce que vous avez, il y a quelque chose qui vous a marqué?
J'ai pas d'anecdote, donc je vais vous décevoir un petit peu, mais non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on se voit quand même assez régulièrement. On a travaillé ensemble sur des projets majeurs en immobilier d'entreprise. Récemment, la commercialisation réussie du 185 Charles de Gaulle. CBRE était mandaté en co-exclusivité avec BNP Paribas. Et je pense que voilà, on a co-construit ce projet aussi avec l'input des brokers et BNP Paribas transactions et CBRE transactions ont joué un rôle important en fait pour nous aider à imaginer l'immeuble de demain. Et le succès commercial de cet immeuble, à mon avis, est une illustration de ce bon travail d'analyse, de co-construction et d'anticipation.
Merci beaucoup, Guillaume Delattre, pour cet éclairage. Merci à vous.
Rassurez-moi, Grégoire, tous vos amis ne sont pas dans l'immobilier.
Non. Tous mes amis ne sont pas dans l'immobilier. J'ai d'ailleurs pour l'anecdote des vieux, très vieux amis avec qui j'étais en primaire. Donc voilà.
Et ça, c'est dingue.
Et j'ai encore une bande d'une dizaine d'amis avec qui on échange et on se voit. Très très régulièrement, je peux pas vous donner la fréquence, mais j'ai des très vieux amis et qui ne sont pas dans l'immobilier.
Mais je parie que dès qu'ils ont un projet immobilier, ils vous en parlent.
Je les y emmène gentiment quand même.
Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas? On a parlé de la voile. J'ai cru comprendre que vous aimiez le vélo aussi.
Ouais, j'en ai glissé deux mots tout à l'heure. C'est ma soupape du week-end, le vélo. Donc effectivement, moi j'aime bien aller me promener en forêt avec un VTT. Et puis.
Donc c'est plutôt du vélo sport. Hein.
Ouais, c'est plutôt du vélo sport, mais le vélo c'est du sport. C'est plutôt du vélo sport. Alors moi je laisse la route à ceux qui veulent faire du vélo de route. Le VTT, c'est d'abord c'est pas de la vitesse, mais c'est une balade. C'est une balade au milieu d'un environnement qui est très sympathique, qui est la forêt. Et puis on a la chance d'avoir en Île-de-France énormément de forêts, donc il y a énormément de parcours. Et effectivement, ça c'est ma petite soupape du week-end. Et puis accessoirement, je suis quelqu'un qui aime bien les jardins et qui aime bien jardiner. Donc quand l'occasion m'en est donnée, je prends tout simplement une tondeuse, un sécateur, un taille-haies, et je m'exerce aussi un défouloir, hein, très clairement.
Est-ce que vous auriez imaginé ça, Fabienne?
Pas du tout, parce que voilà, on pense immobilier, défense, du béton, et on comprend pourquoi il peut le faire, parce qu'il se ressource dans le vert. Hein. C'est cet engagement de CBRE sur le développement durable, vous aviez commencé l'émission là-dessus, pour vous, c'est spontané. Il n'y a pas besoin de se constituer une prise de conscience là-dessus. Hein.
Non, il n'y a pas besoin de se forcer beaucoup, et puis... Je vois bien, le quotidien fait que on était dans une forme de déni en se disant ouais mais c'est pour les autres en réalité. Sauf qu'on voit bien ce réchauffement climatique, on voit bien l'impact que ça peut avoir sur les canicules l'été. Alors vous me direz, en Bretagne, on a encore un peu de marge. En attendant, il y a un truc qui est pas tout à fait normal quand même quand on voit les températures de l'eau en Bretagne se réchauffer de façon trop importante. C'est très mauvais pour les écosystèmes. Et donc il faut être très vigilant à ça, sous peine de dégrader effectivement tout simplement l'environnement dans lequel on vit. Et comme je suis attaché aussi à cet environnement-là, à la beauté de cet environnement-là, j'ai envie de le préserver aujourd'hui.
Vous, Johanna, vous vouliez...
Oui, j'allais continuer sur ce sujet. On est vendredi, il est bientôt 9h. Là, je suppose que vous allez travailler. Et puis ce soir, c'est le week-end. Vous avez un programme type peut-être pour vos week-ends. Demain, on est samedi, après dimanche. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais oui, ça m'intéresse.
Qu'est-ce que je vais faire? La première chose, je vais aller faire effectivement un petit peu de vélo. Maintenant que les températures sont légèrement remontées, parce que là, c'était en dessous de zéro, donc ça devient dangereux quand même d'aller se promener en forêt par des températures négatives, un petit peu de vélo, et puis passer du temps en famille aussi, bien sûr. Parce qu'il y a le travail, mais la famille aussi, c'est important en tant que passer du temps avec, avec ma femme et mes enfants.
Vous êtes satisfait de l'équilibre que vous arrivez à avoir entre vie professionnelle et vie privée ? Ça peut être un peu l'écueil quand on est à un poste comme le vôtre.
Oui, bien sûr. Alors, satisfait, non. Après, j'ai envie de dire, c'est ma vie, c'est notre vie, parce que c'est pas que la mienne, c'est aussi celle de ma famille, de ma femme et de mes enfants, qu'ils comprennent, qu'ils sont dans cette logique-là. J'ai toujours fonctionné comme ça, donc quelque part, c'est pas nouveau. Ça fait aussi partie de mon équilibre, d'avoir cette activité forte professionnelle qui me permet aussi de passer du temps en famille le week-end, mais c'est vrai que la semaine, elle est très professionnelle.
C'est beaucoup de voyages parce que, bon, évidemment, il y a eu l'épisode Covid version dure avec très peu de déplacements. Est-ce que vous nous parlez de projets un peu partout et le groupe a une dimension, une surface à la fois internationale et sur tout le territoire français. Donc, en fait, votre vie, c'est beaucoup de kilomètres ?
Non, c'est pas beaucoup de kilomètres. Non, c'est pas beaucoup de kilomètres. C'est beaucoup d'échanges. C'est beaucoup de réunions. C'est beaucoup de rendez-vous avec nos clients. Et c'est beaucoup de, j'irais, d'énergie qui est mise pour faire avancer des projets. Parce que je crois à la nouveauté, je crois à la différenciation. Ce qui est attendu de nous, c'est qu'on délivre et qu'on délivre le quotidien. Ce qui est attendu, mais c'est qu'on aille chercher des leviers de différenciation. Donc, c'est de pousser de nouveaux projets, c'est de pousser de nouvelles idées. Et donc ça, bah évidemment, ça prend un petit peu de temps. Par contre, du coup, merci Zoom, merci Teams, parce que ou le Zims ou le Tooms, ça permet de.
Vous parlez toutes les langues, Grégoire.
Voilà. Non, mais ça permet de. Ça permet effectivement de gagner un petit peu de temps et puis effectivement d'être à plusieurs endroits à la fois.
Ah bon, très brièvement.
Oui, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes.
Alors j'abandonne ma question, c'était trop long. À vous, Johanna. Ce sera pour une prochaine émission.
Ok. Donc Grégoire, il faudra revenir. Hein. Déjà, c'est acté,
avec
visiblement. En attendant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir, à vous, à CBRE ?
Ouais, je crois que ce que l'on souhaite tous, c'est de passer une année 2022 la plus sereine possible.
Normal.
la moins chamouteuse possible, parce que on a besoin aussi de se reposer, d'arriver à pouvoir travailler 12 mois consécutifs d'une seule traite. Ça nous ferait déjà du bien de reposer ces bases-là. Donc c'est ça que je nous souhaite. Et puis je nous souhaite évidemment... que cette année 2022 soit la plus productive pour tous.
Sympa, Johanna, un patron qui nous dit on a besoin de se reposer. Hein.
C'est parfait. Merci beaucoup, Grégoire de la Ferté, d'avoir été avec
Merci.
Nous ce matin dans le Mac de Limo.
Merci à
C'était
vous.
un plaisir de faire connaissance avec vous. C'est vrai qu'on avait reçu Fabrice Alouche, qui nous fait un très beau mag et qu'on salue d'ailleurs. Mais on ne vous connaissait pas encore, donc c'est désormais chose faite. Merci beaucoup. Fabienne, merci à vous.
Merci, Johanna.
Cette émission est désormais disponible en podcast. Hein, vous pouvez la retrouver sur notre site radio.imo, sur l'application et sur tous vos agrégateurs de podcasts. Et bien la matinée continue sur Radio Imo. Dans quelques instants, le Flash Info suivi d'Allo Radio Imo, comme tous les vendredis jusqu'à 9h30. À 11h, vous retrouverez également la semaine copro de Gilles Frémont et puis la suite de vos programmes. Quant au Mac de Limo, et bien il revient vendredi prochain à partir de 7h. On se quitte avec le choix musical de Grégoire de la Ferté. C'est Norah Jones, ça s'appelle It Was You et c'est parfait pour terminer. Très bonne journée à tous.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.